Cours de critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard, le 21 janvier 1994.
Après avoir essayé de caractériser ce qu'il y a de propre à la connaissance affective, comment la connaissance affective par l'amour connaît une intériorité plus grande. Là où c'est très important au plan critique de bien comparer le jugement d'existence, point de départ de toute ma philosophie réaliste, ceci est, et le je suis personnel. Est un autre. est autre. C'est un autre que moi-même. Et le moi-même, l'identité, vous voyez, c'est là où on voit la différence entre l'aspect fusionnel, affectif, et l'aspect réel de la connaissance affective. Il y a un réalisme dans la connaissance affective qui est très important puisque ça maintient l'objectivité dans la suprême subjectivité. Et qui fait comprendre comment si facilement la sincérité peut devenir aveuglante. On ne voit plus que la sincérité, il n'y a plus aucune objectivité. Et c'est sûr que dans la connaissance affective, poussée jusqu'au bout, c'est-à-dire vraiment dans le choix de l'ami, ce choix de l'ami qui dure, qui reste et qui est actuel, dans ce choix de l'ami, il y a une subjectivité. Parce que je choisis mon ami. Et c'est mon choix de l'ami qui fait que l'ami est ami. Et cette subjectivité merveilleuse qui donne à l'autre sa qualité la plus grande d'être l'ami de quelqu'un. C'est mon ami. Et ceci, c'est le choix de l'ami qui fait cela pour l'autre. Donc il le transforme de l'intérieur. C'est sûr, dans l'ordre de l'amour humain, cela demeure intentionnel. Mais l'intentionnel n'est pas imaginatif dans l'ordre de l'amitié. L'intentionnel a un fondement réel. C'est l'acte profond de l'ami qui se donne à son ami. Et en se donnant à son ami, fait que l'ami existe comme ami. Je crois qu'il faut comprendre ce réalisme très particulier de la connaissance affective, qui est un réalisme, voyez, tout enveloppé d'amour. Il y a un velouté affectif de l'amour qui est très particulier et qui fait que, d'une certaine manière, à cause de cet amour, le réalisme de la connaissance affective est un réalisme qui est enveloppé de subjectivité. Et donc, qui n'a plus le réalisme naïf, ou si vous voulez, l'être sauvage de Merleau-Ponty. C'est là où peut-être qu'on pourrait le mieux le comprendre. C'est juste l'inverse. Quand Merleau-Ponty parle de l'être sauvage, je veux montrer l'être qui se dévoile à moi comme tout autre. Le petit caillou. Vous n'avez pas l'intention de vous fusionner avec le petit caillou. C'est difficile. Ou avec l'hippopotame. Ça, c'est le gros caillou. C'est l'autre. Tandis que dans l'amour d'amitié, dans le choix de l'amitié, l'autre n'est jamais totalement autre. Il n'est plus autre, puisqu'il est mien et que je suis à lui. L'amour spirituel. L'amour spirituel réalise cette proximité, cette intériorité dans l'objectivité. C'est bien l'autre, c'est bien l'ami, ce n'est pas moi. Et le danger de l'imagination qui fait la fusion, je vis ce que l'autre ami vit, mais non pas du tout. Et je ne peux pas, et je le sais, dans la mesure où je l'aime, je sais que ce que l'ami vit, ce n'est pas moi. Et ce que je vis, ce n'est pas moi. Le jour où on croit que ce que l'ami vit, c'est moi, c'est là l'aspect fusionnel, où la subjectivité l'emporte complètement sur toute objectivité. Et on est en présence de la sincérité. Il n'y a plus du tout de vérité. Mais c'est très important pour nous de comprendre ce que du reste Saint-Père lui-même note dans son encyclique. Il le note tout à fait autrement, je le fais au point de vue philosophique et au point de vue critique. Je constate que constamment, aujourd'hui, on ne distingue plus sincérité et objectivité. On ne distingue plus sincérité et vérité. Parce qu'il n'y a plus d'objectivité. Et dans la sincérité, il y a la fusion. Et cette fusion exalte la subjectivité au-delà de toute objectivité. Et je suis la mesure, alors, vraiment, de l'autre. C'est moi-même qui suis la vérité de l'autre. Ce qui est tout à fait faux. Je ne cherche plus à être vrai. Je cherche à être fusionné dans l'autre. Comme c'est un des aspects très particuliers de notre monde moderne, c'est important de le saisir. Et je crois que ça provient, voyez, de ce que la féminologie dit quand elle montre cette réciprocité dans l'intentionnalité. Alors là, c'est très net, puisque dans l'aspect de la féminologie, il y a la mise entre parenthèses du jugement d'existence. On n'est plus que dans l'intentionnalité affective. Et on reconnaît que l'intentionnalité affective, elle est réciproque, elle est mutuelle. Alors le jour où elle est mutuelle, vous ne savez plus. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Et on a perdu toute personnalité. Et je crois que c'est une caricature, de pouvoir dire ça au point de vue théologique, de la très sainte Trinité. Il n'y a qu'en Dieu où l'intersubjectivité rejoint la plus grande objectivité. crois que c'est ça que Satan veut dire quand il le dit avec netteté. Donc, il faut bien noter ce qu'il y a d'unique dans cette expérience de l'amour d'amitié, de l'ami qui choisit son ami. Parce que le choix est toujours actuel. C'est même ça qui est tout très curieux. De voir que dans l'amour d'amitié, le choix est toujours actuel. Quand l'ami commence à dire, tu te rappelles quand je t'ai choisi. Ça prouve que l'amitié a un peu disparu. Parce que quand on est ami, le choix est toujours actuel. Donc on ne dit pas quand rappelle quand je t'ai choisi. Puisque le choix actuel est plus fort que le choix qui s'est présenté au point de départ. L'amour grandit tout le temps. Le jour où l'amour ne grandit pas, ne grandit plus, l'amour tend à disparaître. Il y a une exigence de croissance dans l'amour qui est le propre de l'amour. Puisque vers l'absolu et qu'on ne l'est jamais totalement. Et c'est peut-être ça aussi, vous voyez, qui caractérise la vérité au-delà de la sincérité. Donc, il y a là quelque chose de très unique et qui est difficile à préciser, puisque dès que l'amour est présent, on n'est plus dans l'unité, mais dans l'union. Et pourtant, on tend vers l'unité. Cet amour, cette connaissance affective se transforme en une connaissance prudentielle. On ne reste pas tout le temps dans cette connaissance affective. Et on ne reste pas tout le temps cette connaissance affective, précisément parce que on veut être dans la vérité. Dans la sincérité, on ne grandit plus, puisqu'on est à soi-même sa propre mesure. Je suis sincère. Quelqu'un qui vous dit « je suis sincère », très bien. Vous êtes dans votre sincérité, vous êtes dans votre réflexion sur vous-même, et vous ne grandissez plus, puisque c'est vous-même qui avez votre propre mesure de l'amour. Tandis qu'au contraire, quand la vérité apparaît dans cette affectivité, je sais que l'ami demeure autre. Et si l'ami demeure autre, il demeure mon bien. Oui, l'amour réclame la vérité. Le véritable amour réclame la vérité. Le véritable amour chasse la sincérité. Et c'est donc contraire à l'amour que de demeurer dans la sincérité. Ça, c'est très, très important. Auto-éducation de l'amour. Le jour où vous apercevez que la sincérité tue l'amour, vous ne voulez plus demeurer dans la sincérité. Et vous cherchez à l'intérieur de l'amour la vérité. Pour aimer plus, pour aller plus loin dans l'amour. Autrement dit, la sincérité vous met dans un état d'engluement. Comme quand on est englué dans la boue. On ne peut plus bouger. On est fixe. Mais c'est une fixité fausse. C'est une stabilité fausse. C'est une stabilité imaginative qui, de fait, empêche l'amour de me donner ce dynamisme profond. Celui qui aime va toujours plus loin. au fond, dans la toute sincérité, il y a de l'orgueil. On veut être en mesure de son amour. On le dit pas, c'est évident, on le dit pas. Tout est caché par le point de vue, affectif. Mais il y a un orgueil. On est mesure de l'amour de l'autre. Ce qui est terriblement orgueilleux et qui détruit l'amour. Alors, vous voyez, si on cherche la vérité dans l'amour, être vrai dans l'amour, on comprendra que l'amour, à cause de son mode humain, va chercher la vérité. Et c'est peut-être cela qui fait comprendre comment je dois passer de l'affectivité à l'intentionnalité. Souvenez-vous de l'analyse de l'acte humain. Il y a un amour premier, et cet amour premier donne naissance à une intention de vie. Je passe du bien à la fin. Et ceci se fait grâce à l'intelligence. C'est l'intelligence qui me permet de passer du bien à la fin. Et vous voyez, le bien, je suis uni au bien. La fin, c'est ce vers quoi je tends. Donc c'est l'autre qui réapparaît dans toute sa force comme autre. Je ne dirai jamais, il n'y a pas de fusion avec la fin, mais il y a une fusion avec le bien. Tu vois, il peut y avoir une fusion avec le bien par l'imaginaire, tandis qu'il ne peut pas y avoir un aspect fusionnel avec la fin. Ce serait contradictoire. Qui dit fin, dit ce vers quoi je tends. Et donc, par la fin, le réalisme réapparaît à l'intérieur de l'amour. Et par le réalisme, la vérité. Ça, c'est très important. Parce qu'on aurait la tendance de dire, mais pourquoi je reste pas toujours dans mon premier amour? C'est la tentation imaginative de demeurer dans ce premier amour. Ce premier amour n'est pas ce qu'il y a de plus parfait dans l'amour. Il est très grand. Il est magnifique en raison de ce qu'il est, mais pour demeurer pur, pour demeurer un véritable amour, il a besoin de se transformer en intention de vie qui redonne à l'intelligence sa place. Je sais que ce bien pas du tout la même chose. Quand je dis qu'il est ma fin, je découvre justement cette différence, cette extériorité, cette objectivité. Et il y a à ce moment-là quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que ce quelque chose de nouveau, est-ce que ce n'est pas la conscience morale qui apparaît là? À quel moment naît la conscience morale? Et que représente la conscience morale au point de vue connaissance? Ce n'est pas la connaissance affective. La connaissance affective est au-delà de l'aspect moral. C'est sa grandeur, mais c'est aussi son péril. Puisque si cet aspect, le péril, c'est cet aspect fusionnel auquel je ne respecte plus la différence, l'altérité, où ma sincérité l'emporte. Conditionnement bouger, je peux plus bouger, j'ai besoin d'être porté. Moi, je peux plus rien du tout. Je suis dans un état tel que je peux plus rien du tout. Retour au verso. Est-ce qu'en ce retour au verso devient tellement fort que réellement il m'immobilise? Je peux plus bouger. Unité. au platonisme, représenté aujourd'hui pour nous avec Heidegger. Vous retrouvez exactement le même parallélisme. Alors, il faut bien comprendre la naissance de ma conscience morale au plan philosophique. Qu'est-ce qu'il y a ?
Vous pouvez préciser ce que vous entendez par conscience morale?
C'est ce que j'ai essayé de comprendre. Qu'est-ce que c'est que la conscience morale?
Et quel est son objet?
C'est la fin.
Comme pour le Socrate,
vous pouvez avoir la naissance de votre conscience morale vient au moment où vous voyez la distance qui existe entre l'amour et la fin. C'est dans un rapport, c'est dans une relation. La conscience morale, et que vous savez que vous devez atteindre cette fin, et que vous ne devez pas vous reposer dans cet amour. Vous comprenez à ce moment-là que l'amour qui est en vous, il est en moi, c'est mon bien. Je dois mobiliser toutes mes forces pour atteindre cette fin. Et c'est cette relation entre les deux qui est la naissance de ma conscience morale. Et je dois faire quelque chose. Je suis mobilisé par ma conscience morale. Vous voyez la différence avec l'impératif catégorique de Kant. Pour Kant, la conscience morale, c'est l'impératif catégorique. Alors vous voyez tout de suite la différence entre la conscience morale que je crois dans le réalisme, dans une philosophie réaliste, où je vois la distance entre le bien et la fin, avec la différence, vous voyez, pour Kant, qui est l'impératif catégorique, fait ceci. Donc l'impératif catégorique, qui est la conscience morale pour Kant, et qui est la voix de Dieu en vous. Puisque pour lui, c'est par là que je retrouve Dieu. Dieu, je le retrouve par la morale. Mais pour Descartes, je découvre Dieu comme garant de la vérité. Pour Kant, je découvre Dieu comme garant de ma conscience morale. Donc mon impératif catégorique, c'est pas étonnant, puisqu'il n'y a plus de finalité. S'il n'y a plus de finalité, il n'y a plus d'objectivité morale. S'il n'y a plus d'objectivité morale, je suis dans la subjectivité pure. Qu'est-ce qui sera le garant de ma subjectivité pure? Dieu. Dans Kant, Dieu est le garant de ma subjectivité pure, puisqu'il n'y a plus de finalité. Pour que vous réintroduisez la vérité dans l'aspect affectif et donc dans l'aspect moral, c'est la finalité. Et la finalité seule donne cette objectivité. Alors à ce moment-là, vous comprenez comment la conscience morale peut être vraie. La vérité morale, elle est dans ma conscience morale, où je mesure la différence entre le point de vue de l'amour, entre le bien et la fin. Et la fin devient la mesure de toutes mes activités, de toute mon action morale. Vous voyez ? Un peu. Quoi ? C'est très obscur pour vous. Parce que c'est encore dans l'imaginaire. C'est très difficile. Vous voyez, la grande purification de l'activité morale, c'est de se purifier de l'imaginaire. Et c'est pas commun du tout. On comprend très bien l'attitude de Kant. Vous voyez, c'est très compréhensible cette attitude de Kant. Parce que il ne veut pas remonter à la source. La source de morale, c'est la fin. La causalité finale. La causalité finale qui est un bien qui s'impose à moi comme un absolu. C'est un bien personnel. C'est toujours une fin. C'est toujours une personne. C'est l'ami. En premier lieu, c'est l'ami. Mais l'ami qui devient ma fin. Oui. Et en éthique, religieuse, Dieu.
Père, qu'est-ce qui distingue la conscience morale de l'intelligence prudentielle? La distinction entre la conscience morale et la prudence.
Ah, mais la prudence fait partie de la conscience morale. Mais la prudence, si je prends la vertu prudence, elle est acquise grâce à ma conscience morale. La source de la prudence, c'est la conscience morale. Vous voyez ? Puisqu'on a vu que la prudence ne pouvait exister que lorsqu'il y avait la faim. Si vous n'avez pas de finalité, vous n'êtes pas prudent. Vous êtes un lièvre qui a peur de la lumière. La nuit, vous avez déjà vu ça. Quand on est en auto, qu'on a devant soi un lièvre qui court, il court comme un fou, à droite, à gauche, jusqu'au moment où la voiture le rattrape et qu'elle l'écrase. Il n'a plus de finalité. Tout homme prudent sait où il va. Il est finalisé. Et quand il se trouve devant quelque chose qui s'impose à lui, il se demande si sa finalité peut l'absorber. Ou au contraire, si sa finalité ne peut pas l'absorber. Oui. Donc, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre la conscience morale. Mesure de ma vérité, il n'y a plus de vérité. C'est la subjectivité.